et en compagnie des programmes de VOA.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir chers auditeurs de VOA Afrique, bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manila Kiza, votre compagnie, Lionel Rudanira Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous revenons sur le rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Nous aurons les explications de Vincent Duclerc, président d'une commission d'historiens, qui a remis vendredi dernier son rapport au président français Emmanuel Macron. Nous aurons également les observations de Mehdi Ba, journaliste et rédacteur en chef délégué à Jeune Afrique. Il est spécialiste du Rwanda et auteur d'un ouvrage, Rwanda, un génocide français. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous débutons notre émission avec ce long entretien que Vincent Duclerc, président d'une commission d'historiens qui a rendu son rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, nous a accordé. Il parle de ses conclusions. Suivez.
Ce qu'on a découvert, c'est des responsabilités accablantes de la France dans cette catastrophe qui survient au Rwanda, c'est-à-dire un génocide perpétré contre les Tutsis. Troisième génocide, après le génocide des Arméniens et la Shoah. Un génocide qui aurait pu être arrêté en plus, parce que il y avait soit des forces françaises, lors de l'opération Amérilis d'évacuation des ressortissants, donc mi-avril 1994, au moment du génocide, où effectivement, lorsqu'il y a donc une opération sous mandat de l'ONU des Français à la fin juin, mi-juin 1994. Donc voilà, il faut vraiment y insister. La France, va mener entre 1990 et 1993, donc c'est très important, avant la phase paroxysmique du génocide, une politique qui au départ apparaît comme assez vertueuse, c'est-à-dire il faut appliquer les principes du sommet franco-africain de la Baule de juin 1990, c'est-à-dire démocratiser les pays qu'on appelle du champ, c'est-à-dire les anciennes colonies et les pays francophones, dont le Rwanda, qui n'est pas une ancienne colonie, mais qui est une colonie belge, francophone. Donc il faut donc conditionner l'aide au développement à une volonté de démocratisation, en tout cas d'ouverture politique, et aussi continuer à protéger, soutenir par des accords de défense les régimes en place. Donc Habyarimana, qui est le président du Rwanda, qui était un président dictateur, un général président avec un parti unique, voit l'occasion de renforcer les liens de son pays avec la France et se montre comme une sorte de bon élève du sommet de la Baule. Il le fait d'autant mieux qu'il est en fait en tension avec le Front patriotique rwandais, c'est-à-dire des exilés tutsis qui ont fui le Rwanda en raison de la persécution intense qui se développe contre leur ethnie minoritaire, contre cette minorité, depuis la fin des années 60, avant même l'indépendance, et puis aussi des Hutus d'opposition qui refusent la dictature d'Habyarimana. Donc c'est une affaire interne, de sa manière, même si ce Front patriotique rwandais se situe en Ouganda, où il a aidé le président Museveni à conquérir le pouvoir. Voilà, et c'est pour terminer, pour vous montrer effectivement la mise en place de cette faillite. C'est une faillite française, une faillite politique, intellectuelle, institutionnelle, c'est que la France, en fait, va faire le contraire d'une politique de démocratisation. Alors, c'est vrai que la France lance quand même des accords de paix entre différentes parties, mais ces accords ne sont jamais soutenus. Il y a une autre politique qui se met en place, qui est une politique de soutien inconditionnel au régime d'Habyarimana, c'est-à-dire un régime raciste qui maintient des cartes d'identité ethnique, qui persécute les Tutsis. Habyarimana lui-même n'est pas véritablement un extrémiste, mais il est entouré d'extrémistes. Et au fond, la politique de la France le pousse dans le camp extrémiste. Donc il y a une radicalisation du clan Habyarimana, une violence répétée contre les Tutsis de l'intérieur, et à l'inverse, une diabolisation du Front patriotique rwandais, qui est un mouvement politique et un mouvement intérieur, et que les autorités françaises, le président de la République, ses conseillers militaires, présentent comme Ougando-Tutsi. Et donc, la politique française, au lieu de démocratiser et de mettre de la politique au Rwanda, rajoute de l'ethnie, de l'ethnicisation. Et plus on ethnicise, plus on dirige, on cible les minorités, ces minorités, dans un régime raciste, et bien ces minorités, fatalement, elles sont promises à l'extermination.
Un génocide ne se commet pas en un jour, c'est un processus. Est-ce que vous évitez d'utiliser le mot complicité sur la base de l'acte final de la consommation du génocide ?
Alors, c'est donc la même question. Bien sûr. En fait, la France observe, entre 1990 et 1993, elle quitte le Rwanda en 1993. Donc, il faut bien le souligner, par application des accords d'Arusha. Mais dans cette période d'octobre 90 à décembre 93, la France est très présente et elle observe. Elle observe, en fait, ces violations systématiques des droits de l'homme, doublées, c'est-à-dire d'actes exceptionnels, systématiques contre les Tutsis, une diabolisation, un ciblage de ces populations. Alors là, effectivement, vous avez raison, au fond, la France a les moyens intellectuels, juridiques, puisqu'il existe la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, qui a été donc élaborée par le juriste américain Raphaël Lemkin, hein, on le sait. Eh bien, la France a des outils, mais elle ne les utilise pas, elle n'utilise pas, à la fois parce qu'il y a une incompétence intellectuelle, il faut le dire, il y a, je veux dire, un niveau intellectuel de la pensée accompagnant la décision, mais qui est affligeant, vous voyez, de nullité, de vision binaire, en gros, les bons donc d'Abiyar Emana contre les méchants Tutsis du chef militaire du FPR, Paul Kagame. Et donc, on est impressionné devant, je veux dire, la faiblesse intellectuelle de ces analyses. Et d'autre part, il n'y a pas du tout dans l'horizon à la fois français et international l'idée qu'un génocide puisse se reproduire. On est, certes, il y a la Serbie et la Bosnie avec la purification ethnique, mais l'idée même de génocide, d'un nouveau génocide après la Shoah, ne s'impose pas. On pense qu'après la Shoah, eh bien, c'est le plus jamais ça. C'est une énorme erreur, énorme. Et donc, au fond, la France, ne comprend pas. Bien sûr qu'elle aurait dû réagir, elle aurait dû faire pression sur Abiyar Emana pour cesser effectivement cette messianisation, mais la France est emportée dans une sorte de vertige géopolitique archaïque où il faut sauver Abiyar Emana parce que sinon les Américains ou les Anglais vont prendre possession du Rwanda. Si vous voulez, c'est de la géopolitique, je veux dire, totalement primaire. Hein. Et donc, la France ne voit pas, et la France, effectivement, écarte les alertes. Alors, à ce moment-là, la question est de savoir si la France est complice. Bon, ça, nous sommes historiens. Donc, ces notions de complicité de génocide, elles appartiennent aux juristes. Donc, nous avons quand même choisi, puisque vous nous posez la question, nous avons quand même choisi d'assumer, eh bien, la question de la complicité du crime de génocide. On l'a défini comme associé intentionnellement à l'entreprise génocidaire, c'est-à-dire dans des écrits ou dans des actes, avoir voulu la mort des Tutsis parce que Tutsis et avoir soutenu l'entreprise génocidaire des Hutus extrémistes. Nous disons qu'aucun document, nous avons vu des dizaines de milliers de documents, nous en déclassifions donc 8000, enfin on révèle et on déclassifie 8000, eh bien aucun de ces documents ne montre que la France, devant la République François Mitterrand, qui je veux dire, est vraiment l'autorité qui décide sur le Rwanda, comme sur beaucoup d'autres points, ne souhaitait l'extermination des Tutsis. Ça c'est clair. En revanche, que les Tutsis apparaissent à travers le Front Patriotique Rwandais comme des ennemis de la France, là c'est clair. Donc vous voyez bien que la limite est assez ténue. Ça, j'entends bien, et qu'on pourrait considérer que la France, par abstention, est complice. Mais nous avons préféré, en tant qu'historiens, repartir d'un élément clair. La complicité de génocide, c'est de s'être associé à l'entreprise criminelle. Et là, effectivement, il n'y a pas d'archives qui le démontrent. Dans tout ce que nous avons vu des dizaines de milliers d'archives françaises.
Il y a le colonel René Gallini qui a lancé des alertes. D'ailleurs, oui. Vous le dites dans votre rapport, dès octobre 90, il met en garde des autorités françaises et évoque dans un télégramme diplomatique le risque d'élimination physique de 500 000 à 700 000 Tutsis du Rwanda. Et il dit même que l'opération turquoise, je vais vous citer, vous dites « Le danger est grand pour la France de passer pour complice de l'actuel gouvernement rwandais, donc le gouvernement génocidaire qui a bénéficié du soutien de la France pour trouver refuge en RDC ». Vous dites que la France a ignoré tout ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il a ignoré ou fermé les yeux ?
Il y a un mélange entre une incapacité de comprendre. Donc, on parle de responsabilité cognitive, c'est-à-dire l'impossibilité de comprendre la réalité rwandaise. Mais en même temps, effectivement, vous avez raison qu'il y a un acte intentionnel d'écarter tous ceux qui vont dire que cette politique va vers la catastrophe. C'est vrai. Et le colonel Galinier sera contraint de quitter son poste. Le général Varret, qui est son chef à la coopération militaire, est démis de ses fonctions. Les diplomates qui observent, les diplomates, les chercheurs, tout ça, ne sont pas écoutés. Donc, effectivement, il y a une volonté d'ignorer. Et là, il y a une intentionnalité. Et cette intentionnalité, c'était davantage pour protéger une politique plutôt que, effectivement, de refuser toutes les alertes sur les massacres. C'était l'obsession. Vous savez, quand on mène une politique, on veut que ça marche. Et même si cette politique, elle ne marche pas, on persiste. Donc, oui, vous avez raison qu'il y a, effectivement, des intentions très claires. Nous avons travaillé comme historiens. Nous avons essayé de reconstituer les processus de décision, la dérive des institutions, des éléments, si vous voulez, donc d'objets historiques. Et là, nos conclusions sont terribles parce qu'elles marquent, effectivement, une faillite intellectuelle de la France, des responsabilités accablantes sur le plan effectivement du fonctionnement du gouvernement et de l'État. C'est quelque chose, je veux dire, la France en sort extrêmement abîmée. Si vous voulez, la France de 1990-1994, c'est terrible. Alors, c'est vrai qu'il y a le moment de l'arrivée du gouvernement d'Édouard Balladur, donc à partir de la fin 93, on appelle la cohabitation, qui change la chose, les éléments. Mais le pouvoir de François Mitterrand demeure encore très puissant. Donc, nous, en fait, je pense, notre travail d'historien, d'établir ces responsabilités accablantes. Maintenant, sur la question de la complicité, c'est aussi aux juristes, éventuellement, de réfléchir sur les données, vous voyez. Nous avons fait une réponse que les Français attendent, mais il est évident que la volonté de refuser toute l'information comme celle du colonel Galinier parce qu'elle mettrait en péril une politique, effectivement, il faut poser la question aussi au fond d'une contribution au processus génocidaire, parce que le processus génocidaire, c'est la mise en place d'un extrémisme racial qui planifie une élimination. Et là, vous avez raison, le colonel Galinier a vu ça. Donc, c'est vrai que ça pose un problème fondamental que d'avoir écarté l'information du colonel Galinier et de bien d'autres.
Est-ce que vous pensez que la France a péché par omission ou par action ?
Les deux. C'est-à-dire qu'elle a omis toutes les alertes. Elle a omis, en fait, de penser la réalité. Le Front patriotique rwandais, ce n'est pas un parti totalitaire, ethnique, et ougandais. C'est un mouvement politique intérieur au Rwanda, formé par des Rwandais, et la France a refusé cette réalité du Front patriotique rwandais. C'est un problème, si vous voulez, encore une fois, cognitif. Comment pouvez-vous, quand vous êtes à la tête d'un pays, refuser à ce point la réalité, comme notamment on a pu le faire dans le conflit de l'ex-Yougoslavie, où il a fallu le président Jacques Chirac pour que la France enfin dise que les agresseurs étaient les Serbes et non pas les Bosniaques. Donc, il y a effectivement une question d'omission, mais qui pose un problème énorme. Et puis, il y a des actions. Il y a des actions donc qui contribuent à soutenir indirectement le processus génocidaire. Par exemple, en formant une armée rwandaise qui est immense, qui est passée de 5000 hommes à 25000. Et comment voulez-vous former une armée qui en plus était uniquement recrutée au nord, c'est-à-dire le clan du nord, c'est-à-dire les Hutus du nord qui sont les plus extrémistes? Comment voulez-vous former une armée de manière efficace si elle fait 25000 hommes? Il était possible de la former avec 10000 hommes. Donc, vous comprenez bien qu'on est là devant un problème aussi d'action, c'est-à-dire d'incompréhension des actions menées par la France, d'un aveuglement. Mais encore une fois, nous n'avons pas trouvé de traces disant « la France forme l'armée rwandaise parce que l'armée rwandaise demain va massacrer les Tutsis ». Le général Varret, qui vient de donner une grande interview dans le journal Le Monde, a bien dit que le chef de la gendarmerie lui a demandé des moyens lourds, des mortiers pour éliminer les Tutsis. Il a aussitôt référé d'abord à Habyarimana, ensuite à Paris, il a lancé des alertes. Et ces alertes n'ont pas été écoutées, elles n'ont même pas été enregistrées. C'est vrai que tout ça pose un énorme problème aussi de fonctionnement de la République, et ça, nous avons souhaité le dire aux Français aujourd'hui.
Donc, selon vous, la France devrait être moralement responsable?
Il est clair que, je veux dire, le travail qui est mené par le président Macron, Le président Macron a souhaité que pour sortir d'une sorte de guerre civile des idées, je veux dire, parce que le débat sur la responsabilité de la France dans le génocide depuis 1994, il est terrible, il est plein de mensonges, plein de manipulations, plein de violences, plein de procès. C'est absolument étouffant. Et donc, en fait, l'analyse du président Macron, c'est de dire maintenant, on va repartir sur des bases de vérité. Et donc, on va demander à des chercheurs d'établir non seulement cette base de vérité, mais les éléments de vérité. Et effectivement, à partir de ce moment-là, là, on a maintenant un récit de l'engagement de la France au Rwanda, au fond que les Rwandais eux-mêmes peuvent partager, parce que c'est leur histoire qu'on révèle. Et bien évidemment, il faudra faire des gestes. Le président Macron est décidé à faire des gestes sur la base des vérités que l'on donne là, et je crois que nous avons espoir, tout le monde a espoir, si vous voulez, en Europe comme en Afrique, hein, qu'il y ait un grand acte de réconciliation, et une réconciliation sur la base de la vérité. On ne peut pas se réconcilier uniquement avec des excuses ou il faut voir la vérité en face. Et effectivement, la première, je pense, des réparations morales, eh ben, c'est d'accepter la vérité, de dire la vérité aux Français, de dire la vérité au monde. Et voilà, nous sommes engagés dans ce processus-là. Nous, les chercheurs, on a contribué à cela et nous espérons que les choses vont continuer. Sans nous, on fait notre travail. Maintenant, c'est aux responsables politiques, c'est aux intellectuels voilà, d'agir. Mais au moins, il y a une base qui permet de changer complètement en fait, le paysage, hein, l'horizon de la discussion.
Qu'est-ce que vous avez trouvé sur l'attentat contre l'avion de Habyarimana?
Les archives des services secrets de la DGSE montrent de manière insistante que les menaces provenaient des Hutus extrémistes. Il y a effectivement une documentation très très claire. Nous avons aussi découvert que les forces armées rwandaises disposaient, parce qu'ils les avaient saisis, de missiles SA-16, donc de fabrication soviétique, permettant donc d'abattre l'avion d'Habyarimana. Donc c'est vrai que la thèse des responsables de l'attentat dans le camp Hutu extrémiste est renforcée. Voilà. Mais nous n'avons pas effectivement eu la preuve matérielle de cette responsabilité. Mais c'est vrai que voilà, l'hypothèse des Hutus extrémistes se renforce. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a souvent dit, au fond, si on découvre qui a abattu l'avion, on va comprendre le génocide, on va en gros savoir qui a décidé le génocide. Mais c'est faux. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu la destruction de l'avion, le processus était tellement engagé que le génocide aurait eu lieu quand même. Donc, il serait faux de penser que c'est la destruction de l'avion qui provoque le génocide. Le génocide est préparé depuis de longues dates. C'est ça un génocide. Le génocide, c'est une planification, une organisation. Et là, elle existe.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Cette deuxième partie, nous recevons Merdiba, journaliste et rédacteur en chef délégué à Jeune Afrique. Il est spécialiste du Rwanda et auteur d'un ouvrage « Rwanda, un génocide français ». Il nous parle de ses observations. Suivez.
C'est un rapport qui est sorti, je crois, le 26 mars. Il provoque des réactions qui sont assez diverses selon les interlocuteurs. On peut trouver à la fois des interlocuteurs politiques comme Hubert Védrine ou Alain Juppé qui étaient aux affaires à l'époque et qui applaudissent. On peut trouver l'association Survie qui travaille sur ce sujet depuis 1994 et qui est beaucoup plus critique. Et puis voilà, il y a au gré des observateurs, il y a des échos différents. D'autres, on peut se féliciter quand on s'intéresse, comme c'est mon cas, depuis 1994 à la question du génocide des Tutsis au Rwanda. Sur le plan de l'analyse générale, c'est un rapport qui sait formuler les choses d'une manière assez franche et directe, c'est-à-dire de dévoiler tout un tas de dysfonctionnements, je reprends ces mots, de défaillance des pouvoirs, d'absence de contre-pouvoir, de chaînes parallèles de communication et de commandement, de contournement des règles. Donc, je m'arrête là, mais c'est pour dire que le rapport du Clerc, par certains côtés, se montre assez intéressant. intransigeant sur tout ce qui fait qu'au niveau des différentes institutions de la République française qui ont eu à gérer ce dossier si sensible du Rwanda entre 90 et 94, il n'y a pas franchement de raison de se décerner côté français des satisfaits. Après, c'est aussi un rapport qui a ses limites. Une des limites, par exemple, c'est celle de ne pas avoir fait d'audition et d'avoir cantonné son travail à une relecture des archives officielles auxquelles il pouvait avoir accès. Ça, c'est une première limite. Dans l'analyse, les limites, c'est qu'il y a des sujets un petit peu sensibles, comme par exemple, pour prendre qu'un seul exemple, l'opération Turquoise, où le rapport est très réservé, très timoré, on pourrait dire, par rapport à certaines critiques qu'on a pu entendre. Mais bon, l'avantage de ce rapport, c'est d'une part qu'il a été mandaté par le président de la République Emmanuel Macron, ce qui dénotait déjà une intention politique de faire la lumière sur les responsabilités françaises dans le génocide, qu'il y a eu une équipe d'historiens et d'autres, des juristes et autres, qui ont fait un gros travail d'épluchage des archives, et qu'au final, sur un rapport de près de 1000 pages, quand on lit ne serait-ce que les conclusions qui sont disponibles sur Internet, on voit quand même un verdict de ce rapport en termes de conclusion qui est quand même assez édifiant sur les responsabilités françaises.
En revenant sur la question de la complicité de la France, est-ce que vous êtes convaincu par les explications qui sont données dans ce rapport ?
Comme moi, je ne suis pas juriste, je me suis posé la question que vous venez de me poser et je me suis tourné vers une juriste spécialiste du droit international et notamment de la jurisprudence des tribunaux internationaux sur le Rwanda et sur l'ex-Yougoslavie, Raphaël Maison, avec qui j'ai fait une longue interview qui est parue ces derniers jours sur jeuneafrique.com, pour lui demander justement si cette phrase qui apparaît au détour des conclusions, donc sur 992 pages, il y a une phrase où effectivement la commission du clerc semble faire litière de manière très rapide et sans explication et sans argumentation du fait qu'il pourrait y avoir une complicité française dans le génocide. Et ils conditionnent leur verdict en disant qu'au sens de l'intentionnalité du complice, on ne peut pas parler, au vu de ce qu'ils ont consulté comme archives, de complicité de génocide. Ce que Raphaël Maison explique de manière très détaillée dans l'interview que j'ai pu faire d'elle, c'est que l'intentionnalité du complice n'a jamais été requise par la jurisprudence internationale. C'est pas ça la condition. La condition, c'est d'apporter une aide directe et substantielle à des gens qui commettent un génocide tout en sachant qu'ils commettent un génocide. Donc, à mes yeux, la commission du clerc, qui ne comprenait aucun pénaliste, mais uniquement en termes de juristes, des gens spécialistes du droit public, n'aurait jamais dû s'aventurer sur ce terrain-là et porter un verdict aussi définitif. Parce que manifestement, là, ils ont dit une bêtise. À savoir que oui, on peut tout à fait considérer qu'il y a eu complicité de génocide de la France, je ne parle même pas des individus, mais de l'État, dans le génocide des Tutsis commis au Rwanda. Et bien évidemment, je n'affirme pas que ça a été le cas, mais je dis simplement que rien ne permet d'écarter cette hypothèse et qu'une partie des éléments qu'ils ont eux-mêmes apportés, sans parler de tous les éléments qu'on connaît depuis 1994, permettent effectivement de continuer d'entretenir cette interrogation de la question de la complicité française dans le génocide des Tutsis.
Vous êtes auteur de Rwanda, un génocide français. Que signifie pour vous un génocide français?
C'était un titre qui volontairement, à l'époque, ça nous ramène à 1997, à la fin 97 quand ce livre a été publié. Bon, c'était une manière de faire un titre qui soit un petit peu accrocheur et provocateur et qui donne envie de se pencher justement sur la question que vous venez de poser. Mais au fond, français, dans cette phrase, est un adjectif, et c'est-à-dire que ce génocide a quelque chose à voir avec la France. Voilà. Le titre ne veut pas dire que ce génocide a été commis par des Français ou qu'il a été voulu par des Français. Il veut dire que depuis 1994, ce génocide des Tutsis commis au Rwanda contre des Rwandais par des Rwandais colle, si je peux m'exprimer ainsi, colle à la peau de la France. Et vous avez vu, on est 27 ans après le génocide et ça continue. Ça continue d'être quelque chose dont la France ne parvient pas à se débarrasser parce qu'elle a manifestement, et ça la Commission le dit de manière extrêmement clair. Il y a des responsabilités françaises dans la planification, l'organisation, la commission de ce génocide à différents moments, de différentes manières, qui fait que la France est le seul pays au monde, à ma connaissance, qui soit aussi directement impliqué dans le génocide. Donc un génocide français, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a un seul pays hors du Rwanda qui a une responsabilité directe dans le fait d'avoir été aussi proche des gens qui ont conçu ce génocide, qui l'ont planifié, organisé et commis. Et ce pays, c'est la France.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous, consacrée au rapport sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Merci à nos deux invités, merci à Lionel Naniragahima qui a facilité la mise en onde. Eric Manirakiza vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine.